dans cette release de CPU, des esclaves gribouillés, le bâton de Plutarque, des sémaphores bien haut, bien haut, et du piratage. L'équipe aujourd'hui d'Askritch, et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux, non ? Ce serait cool. Je vous décrypterai ce que je dis. Allez, c'est parti.
CPU carré petit utile.
Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui t'amuses à écrire les mots avec des chiffres pour faire plus incompréhensible. Mais crois-moi, écrire en Leetspeak ne date pas d'hier. Il fut un temps où Rome était capitale d'une immense république couvrant toute la Terra Cognita de son aura, allant du bout de l'Hispanie jusqu'en Assyrie. C'était en 50 avant JC, un mec tellement cool qu'on disait qu'il marchait sur l'eau après avoir mangé du pain. Dans son gouvernement, deux sénateurs généraux se disputaient pour savoir qui allait avoir l'honneur de transformer l'État romain en empire et qui allait compter fleurette avec la belle Cléopâtre à l'ombre des pyramides qui avait un nez, ma foi, vachement superbe. César et Pompée ne pouvaient se voir en pâture, même au Sénat, et la surface du monde connu n'aurait suffi à calmer leur ire. On aurait pu en rester là, mais leur poste de sénateur leur conférait à l'époque aussi le rang de général et donc le contrôle d'une partie de la légion romaine, SPQR, ce qu'il peut ravager après tout. Seulement, cette ambiance de guerre civile s'étendait sur quasiment 3 continents. Et une telle distance demande de gros efforts de logistique, donc de communiquer très en avance avec ses bases arrières. Une communication dont le message ne doit pas être éventé, sinon ta stratégie pour les prochains mois tombera à l'eau. Pour communiquer en toute discrétion avec ses troupes à l'autre bout du continent, histoire de demander à ses partisans au Sénat des renforts, Pompée avait recours à la technologie de l'esclave. Une méthode mise au point par l'empereur assyrien Nabucodonosor depuis déjà un demi-millénaire. Bon, le principe est très simple. Tu prends un esclave dans ta suite personnelle, si possible, pas chauve, et d'une abondante chevelure de jet. Tu rases la tête de ton esclave à blanc. Oui, astuce de pro, il vaut mieux une peau claire. Tu écris sur la partie du crâne qui était poilue. Bon, bien évidemment, comme le voyage est long, il faut que le texte tienne aux intempéries, donc je te recommande le tatouage. Une fois que les cheveux ont repoussé, tu envoies ton esclave à ton correspondant. Enfant du futur immédiat, oui, à l'époque, on ne s'embarrassait nullement d'utiliser un esclave pour n'importe quoi. Les deux S2I n'ont rien inventé de neuf quand elles refourguent de l'ingénieur Java pour retaper un vieux projet en WinDev. Mais si le principe de l'esclave messager est maîtrisé, comme le fait qu'il sache qu'il porte un message très important et dont il ignore le contenu, il a néanmoins quelques inconvénients. Quelques. Accroche-toi et prends des notes. Le premier d'entre eux est la repousse du cheveu. Il faut bien compter un mois pour que le message soit suffisamment caché. Heureusement, il est possible d'anticiper en écrivant à l'avance les messages que tu seras susceptible d'envoyer. Et comme tu as un général qui règne sur la moitié des légionnaires romains, personne ne verra d'inconvénient à ce que tu aies en permanence une vingtaine d'esclaves dans ton intendance. Le détournement de biens vaut mieux que deux, tu l'auras. Le deuxième inconvénient est la lenteur du trajet. Toute l'astuce du message caché sur un esclave réside dans le fait que le vecteur humain doit paraître parfaitement quelconque durant son périple. Il est donc hors de question qu'il circule sur un cheval de course sur les voies romaines. Sinon, contrôle au faciès oblige, il va se faire arrêter par la patrouille volante et on va lui demander les papiers du véhicule. Il ira donc forcément à pied, en petite foulée, parce que, oh oui, il y en a des mille à passum entre ta garnison en Germanie supérieure et Roma capitale. Plusieurs dizaines de distances Marathon-Athènes où, rappelons-le, le messager était mort d'épuisement en arrivant sur l'esplanade du Parthénon, n'arrivant à dire son message que dans un ultime râle, 42 km, là c'est une paille en comparaison. Le troisième inconvénient de la technologie de l'esclave est de s'assurer la loyauté de ton messager. À cette fin, il vaut mieux prendre un esclave qui a une famille à laquelle il tient et que tu gardes en otage sous la main, voire pas trop loin du glaive. Oui, car si ton destin est lié à son enfant, parent, compagnon, baffé la bouche inutile, ton compagnon a franchement intérêt à ce que tes messages arrivent à temps et à destination. Bon, du coup, tu passes de la vingtaine à la centaine d'esclaves dans la suite de ton état-major. Une bonne centurie, les soldats pourraient commencer à jaser, surtout si ça commence un petit peu à s'épuiser les provisions. Le quatrième inconvénient est la surface d'écriture disponible sur la surface pileuse d'un crâne. Supposons que tu as un besoin urgent de renfort. Moi, je te souhaite vraiment bonne chance pour écrire la liste complète de tes cours sur un seul occiput.
Ah ouais, Claudius, fais passer en urgence au Sénat une rallonge budgétaire. Expédie-moi ASAP 20 centuries, 175 chevaux, 7 tours d'assaut, 4 béliers et 8 balistes. Je suis coincé du côté de Fribourgoum-Brisgovier, en Helvétie occidentale. Je te rapporte des meules de Gruyère, tu vas adorer, bisous. Cneius Pompeius Magnus.
T'as tout noté ? Oh, ok. Le cinquième inconvénient est que la tête d'esclave est un support peu réutilisable. D'abord, le message est déjà écrit sur la tête de façon indélébile, donc à force de barrer et d'écrire à côté, bah, il n'y a plus de place. Et en plus, une fois qu'on a délivré un message à un sénateur qui entraîne une action défavorable pour le parti de l'opposition, bah, la tête de l'esclave est un peu connue, il ne passe plus inaperçu, bref, il est grillé. En plus, on doit aussi se méfier de ceux vendus au marché des esclaves de seconde main, ils ont peut-être déjà servi. Le sixième inconvénient est le manque de discrétion en cas de mort du messager. Bah oui, étant donné qu'il est esclave et ne porte pas forcément d'armes avec lui pour que le voyage reste discret, il faut le faire suivre par un garde du corps. Et si jamais l'esclave meurt, de façon naturelle ou de raison naturelle, le garde du corps doit alors décapiter la tête de l'esclave et amener donc la tête en décomposition au sénateur à qui il est destiné. T'imagines ? Tu sièges au Sénat et en pleine délibération, t'as un homme vaguement en guenille civile qui te fait mander, qui dit aux huissiers qu'il a un colis urgent pour toi, lequel colis pue la mort, que le banc du parti opposé n'aura pas manqué de remarquer et qu'à ton retour tu tentes de faire passer une loi urgente de soutien à Pompée. Bah, essayer de faire croire au sénateur du parti de César que tu recevais un colis de fromage bien fait depuis l'Auvergne au tarif chariot à bœuf lent. À mon avis, ça ne marchera pas. Le septième inconvénient est l'interception. Si l'esclave se fait prendre par le clan adverse et que le message est découvert, il est immédiatement compréhensible par l'ennemi. Ce qui nous amène au dernier inconvénient de la technologie du message secret par esclave messager, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise blague. Si le camp de César a compris le principe des messages secrets avec un esclave, il peut préparer un esclave avec un faux message et mettre une sacrée confusion dans ton camp. Dans le camp opposé à Pompée, César utilise une technologie moderne, le chiffrement. Il existait déjà des technos approchantes, comme le bâton de Plutarque ou la substitution de mots. César a industrialisé le principe. Il suffit de décaler chaque lettre du message de 3 positions dans l'alphabet pour obtenir un message qui ne soit pas lisible, sinon par les initiés, lequel message peut s'écrire sur un papyrus standard à la longueur qui te conviendra et quitte à y aller, tant pis pour la discrétion. Hein. On vend une estafette, on lui met les meilleurs chevaux italiens sur un char de course avec armement et panier repas pour la route.
Tu bounins de rouze, gâté, va.
Et on y va à toute berzingue sur les voies romaines.
U Ferrari, U Maserati.
Bon, forcément, le message arrive nettement plus vite à Rome. On n'a pas besoin d'entretenir une centaine d'esclaves avec ses soldats. Et c'est ainsi que César met une branlée à Pompée. Veni, vidi, vici, avec accusé de réception. Enfant du futur immédiat, la morale de l'histoire est que le message chiffré va bien plus vite que le message planqué. L'hymne à la joie de Ramin Djawadi. Avant de continuer de compter la cryptographie à travers l'histoire, il nous faut aborder un point de vocabulaire, car souvent j'entends des gens très concernés qui parlent de terroristes qui encryptent des messages. Outre qu'ils n'en ont même pas le début d'une preuve, l'usage du verbe encrypter démontre une ignorance certaine du sujet, une naïveté qui serait charmante si ces mêmes messieurs ne voulaient pas interdire le chiffrement dans la foulée. Alors donc, crypter veut dire mettre en crypte, cacher les morts de la vue des vivants. On l'utilise aussi, quoique abusivement, pour l'action de transmettre un message qui est écrit en clair, mais soustrait de la vue des autres. Ben, écrire sur le crâne rasé d'un esclave, ou utiliser du jus de citron, ou rouler une feuille de papier qu'on va placer dans la fente d'un mur, on peut appeler ces actions cryptées, mais le bon terme serait plutôt dissimulé, car le message est parfaitement compréhensible une fois sa cachette découverte. Chiffrer veut dire rendre un message inintelligible, sauf par un nombre restreint de personnes. Le message n'a pas besoin d'être dissimulé puisqu'il est illisible à moins de connaître la manière qui a été utilisée pour effectuer le chiffrement. Déchiffrer veut dire décoder un message qui a été chiffré afin de le lire, procédure faite en utilisant la méthode pour laquelle est prévu qu'il soit lu. Mais il existe un faux ami. Décrypter, action qui consiste à tenter de décoder un message chiffré sans en avoir la clé de lecture. En général, on tente un décryptage par intuition, en essayant de trouver des motifs répétitifs, les lettres les plus fréquentes ou les mots, ce que l'on appelle une attaque par dictionnaire. Ou on peut aussi décrypter par force brute, qui consiste à essayer bourrinement toutes les possibilités mathématiques jusqu'à trouver un message cohérent. Et je passe d'autres méthodes de décryptage dont la violence mathématique m'oblige à ne pas en évoquer les détails gore. Donc, déchiffrer implique chiffrer. Décrypter implique chiffrer. Mais crypter n'existe pas vraiment. Donc si un ministre, un homme politique ou un expert autoproclamé vous parle de messagerie cryptée ou de terroristes qui cryptent les messages, sachez qu'ils n'y connaissent pas vraiment grand-chose. Fortune present gifts not according to the book. The Dead Can Dance, extrait de l'album A Passage of Time, ça date de 91 et je vous conseille toutes leurs discos, vraiment, sérieusement. Fortune presents gifts not according to the book. Fortune presents gifts not according to the book. When you expect wishes, it's true. When you expect blues, it's wisdom. What various paths have followed in distributing honors and possessions. She gives awards to some and penitence cloaks to others. When you expect wishes, it's true. When you expect fruits, it's wisdom. Is
Sometimes she robs the chief goat herd of his cottage and goat pen. And to whomever she fancies the lamest goat has born to kiss. When you land whistles, it's blue. When you land flutes, it's whistles. Because in a village a poor lad has stolen one egg. He swings in the sun and another gets away with a thousand crowns. When you expect whistles, it's blue. When you expect roots, it's
Vous écoutez Radio FMR. Et cette semaine, nous vous racontons quelques histoires de la cryptographie. Le chiffrement est resté très longtemps une technologie destinée à un usage militaire. S'en servir en dehors d'un usage officiel de l'armée pouvait conduire à une accusation d'espionnage ou de complot contre l'État, en général sanctionnée jusqu'en 1981 d'une peine de mort. Néanmoins, dès le Moyen-Âge, nous voyons poindre des usages civils du chiffrement plus ou moins bien tolérés par les autorités. Au XIIe siècle, commence à apparaître le concept d'ambassade, celui où deux États sont dans des relations suffisamment pacifiées pour envisager une représentation officielle dans la capitale de l'autre, nantie d'un officier civil officiel représentant un État au sein d'un autre État. Et si les réceptions de l'ambassadeur sont toujours un succès, c'est aussi parce qu'il peut émettre des messages vers son gouvernement. Oui, exception, émettre, blague. Or, pour pouvoir converser avec sa capitale de rattachement en toute confidentialité, le personnel diplomatique se voit concéder une autorisation tacite de chiffrement, aussi bien pour prendre des ordres que pour rapporter ce qu'il sait, mais surtout afin de régler les affaires administratives de nationaux en vadrouille. Après tout, l'information doit traverser au moins un pays dont les relations semblent correctes, mais pas forcément très amicales, afin de rejoindre la capitale de votre royaume. Dans les faits, il se trouve que le chiffrement est utilisé légalement, mais quotidiennement par des civils. Ainsi, les alchimistes chiffrent leur recueil de travaux avec des symboles ésotériques, gardant ainsi confidentielles leurs recherches sur la pierre philosophale. En plus d'utiliser des symboles astrologiques, permet d'y ajouter du mystère, donc d'y distiller de la magie et donc amplifier l'illusion d'un professionnalisme. D'une manière assez amusante, cet effet placebo est de nos jours enseigné en médecine. Si l'écriture de votre médecin semble difficilement lisible, sachez qu'il le fait, parfois exprès, afin de donner un caractère magique aux ordonnances. À moins que Tout simplement, ils écrivent particulièrement mal. Pour en revenir aux alchimistes, ceux-ci sont néanmoins peu souvent torturés par l'Inquisition afin qu'ils décodent leurs livres. Le roi a déjà fait financer par le trésor royal leur recherche d'une somme conséquente. Couper la tête ou la main d'un alchimiste car il utilise une écriture chiffrée est une très mauvaise idée. Et oui, il est peut-être effectivement à deux doigts de trouver la formule qui transforme le plomb en or. Le tuer serait un non-sens complet en termes d'investissement, une vraie gabegie des finances publiques. Sans compter l'image désastreuse que vous donnez par ce geste à la recherche publique dans votre royaume. Les luthiers, eux aussi, codent leur livre de compte. Un devis, une fois chiffré, estimé, est donc chiffré afin que tout espion ou perquisition ne dévoile pas la marge sûrement princière que se font les membres de cette corporation sur les commandes royales. Là aussi, tuer les luthiers est une très mauvaise idée. Vous donneriez un très mauvais signal aux artistes officiels. Et qui plus est, plus personne n'osera vous construire d'instruments sur mesure pour votre petit prince. Ce qui veut dire que l'autre morveux va vous casser les oreilles avec sa flûte à bec au lieu de passer au clavecin bien tempéré. L'interdiction de chiffrer les livres de compte, même pour les luthiers, n'entrera réellement en application qu'au début du XXe siècle. D'ailleurs, le code secret des luthiers n'a été décodé formellement qu'à la fin 2016, et justement, le décodage des 10 livres permet non seulement de connaître l'état des finances de ces artisans, mais aussi l'inventaire des instruments produits, des fournisseurs auxquels ils font appel, et donc les matières utilisées et quelques secrets de fabrication. Ce qu'on n'avait reconstruit que d'une manière très empirique jusqu'ici. Mais outre les professionnels conventionnés que sont les alchimistes et les luthiers, il y a d'autres personnes qui entretiennent une correspondance chiffrée pour des raisons de cœur. Ah, l'amour. Mais pour ce qui est de tolérer une telle activité pour des amants infidèles, alors ça c'est une autre histoire. Car oui, si vous aviez le bonheur de tomber amoureux, mais que votre moitié de cœur était déjà engagée dans une union où il n'y a que de bibi entre vos familles, eh bien il vaut mieux envoyer des mots doux chiffrés, plutôt qu'en vers ou en prose, deux états de mots doux qui deviennent vite très compliqués si vos messages de bourgeois gentilhomme tombent entre des mains indiscrètes. Or, quand un couple officieux utilise le chiffrement pour sa correspondance, cela veut dire que les deux tourtereaux correspondants ont donc un niveau d'éducation loin d'être négligeable, bien au-dessus de la moyenne, et que donc un membre influent du royaume est sûrement cocu, lequel personnage encorné, plutôt que défié dans un duel à l'épée, toujours très hasardeux, préférera faire couper la tête du don Juan en l'accusant de complot contre l'État, sortant le message chiffré comme preuve, intelligence avec l'ennemi, qu'on lui coupe la tête et patin couffin. Et oui, la sortie élégante à la fiole de Sigus, c'est plus du Shakespeare qu'autre chose. Roméo avait plus de chance de se retrouver torturé, écartelé en place publique et Juliette emmurée vivante dans un obscur monastère. Ajoutez qu'à l'époque, les courriers étaient souvent interceptés et lus par la police, l'inquisition postale, comme on l'appelait, montre que la parano des dirigeants politiques vis-à-vis de nos correspondances privées ne date pas d'hier.
Thank you.
James Horner, extrait de la bande originale du film Le nom de la rose. Devant la prolifération toute relative de la correspondance chiffrée et les multiples services de police ou d'inquisition qui s'en inquiètent, le Moyen-Âge voit poindre un nouveau métier très spécifique. La demande vient de clients prestigieux et très puissants, comme le roi, la police secrète, l'inquisition, l'église, la noblesse, ou de très riches marchands qui soupçonnent l'infidélité de leurs femmes. Ainsi naquit le métier de décrypteur, celui qui décrypte les messages chiffrés. Des petits jobs qui travaillent par l'occasion et qui n'avaient que très peu de spécialistes. Tel le frère Guillaume de Baskerville dans Le nom de la rose, ils s'y sont mis, titillés par le mystère et ayant à la fois la curiosité et la connaissance des lettres. Bien souvent confrontés à un simple code de substitution alphabétique, manière code de César ou le carré de Polybe, ces artisans utilisent empiriquement des attaques par répartition statistique des lettres ou des attaques par dictionnaire. Si ce n'est une simple opération géométrique comme la bonne vieille systale, le fameux bâton de Plutarque. Le travail des décrypteurs est bien loin des travaux de Champollion en termes de difficulté. Mais face à eux, le code de César va connaître plusieurs évolutions. D'abord, le décodage par index tournant ou le nombre de lettres dans l'alphabet à faire bouger pour chaque lettre n'est plus constant. Ensuite, l'ajout de symboles complémentaires pour éviter que certaines lettres ne soient trop facilement devinables, telles que le E, le R et le N, qui sont les lettres les plus courantes en langue française. Une lettre en clair peut être substituée par différents symboles qu'on peut qualifier d'homoglyphes, un ajout spécifique d'entropie qui est parfois étendu à des syllabes. Et après, l'usage d'abréviations, voire l'usage de symboles pour remplacer un terme fréquent. Et enfin, le mélange de langues, souvent dans les mêmes phrases, comme l'occitan avec le latin. On a parfois de réelles innovations, comme l'alphabet bilitère de Francis Bacon, une évolution du carré de Polybe qui encode chaque lettre en 5 symboles, usuellement notés A et B. Ces symboles étaient stéganographiés dans un message anodin, par exemple les lettres droites signifient un A et celles en italique un B. Aujourd'hui on dirait 0 et 1, car Francis Bacon a inventé sans le savoir le premier jeu de caractères dans une représentation binaire. Une curiosité qui fut saluée par William et Elizabeth Friedman, un célèbre couple de cryptographes américains qui y firent mention tout au long de leur vie et même sur leur pierre tombale. Mais revenons au Moyen-Âge. Le labeur du casseur de code se fait aléatoirement, souvent en solitaire, et à côté d'une autre activité pécuniairement moins aléatoire, car le résultat est loin d'être garanti face à ces améliorations. En l'absence de suffisamment de documents chiffrés avec le code à casser, le chemin est d'autant plus difficile pour le décrypteur. Les outils mathématiques sont très souvent ignorés, et de toute façon encore simples. Le calcul scientifique n'arrivera que plus tard, comme le calcul statistique. Les méthodes sont encore frustres. Les opérations de chiffrement en déchiffrement se font avec des outils simples, le parchemin, la plume d'oie, et beaucoup de sueur au front. Et même en connaissant le code, les opérations restent très laborieuses si on n'a pas les moyens, comme Henri II de France, de faire construire une superbe boîte à chiffrer, utilisant un mécanisme pour montrer les lettres substituantes. On reste sur de l'artisanal pur. Les évolutions les plus importantes se feront dans le domaine militaire, diplomatique et l'espionnage, comme les règles à chiffrer, l'usage de clés jetables et l'usage d'infrastructures de communication publique. Au XXe siècle, des innovations radicales feront changer les pratiques. Björk, Isobel, Deodato Remix. Extrait de la compil de remix Telegram. écoutez Radio FMR. Et cette semaine, CPU vous raconte quelques histoires autour de la cryptographie.
Avant la domestication de l'électricité, il existait une première forme de télégraphe optique créée par Claude Chappe. Le télégraphe Chappe était constitué d'un réseau de sémaphores, d'immenses tours perchées sur des points hauts, disposés à la vue de leurs voisins immédiats. Ces sémaphores étaient surmontés d'une perche principale appelée régulateur et deux bras articulés appelés indicateurs. En fonction des angles que prenaient les bras, il était possible d'encoder 92 symboles différents. Le message était transmis de ville en ville en étant relié par ces sémaphores. La première ligne qui assurait les communications entre Paris et Lille, soit 200 km, utilisait une quinzaine de ces relais en 1791. Le réseau fut baptisé Télégraphe Chappe, pas uniquement en référence à son inventeur Claude Chappe, mais aussi à son frère politicien Ignace, député à l'Assemblée nationale, qui a un peu poussé l'invention de son frère pour que l'État paie le prix fort de l'usage exclusif. Comment ça, conflit d'intérêts ? Ah, reconnaissez au moins que le système est très rapide. La vitesse de transmission est stupéfiante. En 1794, Paris fut informé de la victoire sur les Autrichiens à Condé dans le Nord en moins d'une heure. Même avec les chevaux les plus rapides, il aurait fallu au moins 6 heures pour transmettre l'information. Très vite, le télégraphe Chappe fut utilisé pour la transmission d'ordres militaires administratifs et de dépêches d'information à destination des préfectures. Napoléon consolida le réseau et en fit un des outils de gouvernance, renforçant le rôle central de Paris dans une politique jacobiniste. En 1824, Ignace Chappe voulait ouvrir son usage au domaine commercial, mais les milieux d'affaires n'étaient pas vraiment chauds et y opposèrent une certaine résistance. Eh oui, on avait déjà des grèves de diligence qui bloquaient les voies rapides. À l'époque, il existait en France des bourses régionales où on pouvait spéculer sur les valeurs en journée avant de subir une correction en fonction des échanges tenus au Palais Broignard à Paris. Or, en bourse, celui qui est informé le plus vite a un avantage et peut donc vendre ou acheter des valeurs en sachant la tendance qui sera annoncée dans quelques heures. Encore de nos jours, dans le trading, tout est dans la vitesse de transmission de l'information, mais il faudra en reparler une autre fois. Revenons au 19e siècle. François et Joseph Blanc, deux frères jumeaux spéculateurs de la place de Bordeaux, se sont spécialisés dans les bons du trésor. Ils conviennent très vite qu'il faut connaître, avant leurs concurrents, les cours de Paris afin d'assurer une position gagnante. En fait, ils n'ont pas besoin de connaître les cours dans le détail, mais uniquement la tendance, soit haussière, soit baissière du marché, et de connaître bien avant que commence à être transmis le bulletin officiel des cours de la bourse, arrivant en général par calèche, donc plus d'un jour après. Si des collègues à eux utilisaient déjà la technologie du pigeon voyageur, notamment les Rothschild, celle-ci se montrait aléatoire et bien moins rapide que ce qu'avaient en tête les frères Blanc, la toute nouvelle ligne de télégraphe Chappe qui relie Bordeaux à Paris. Mais son usage reste exclusif à l'État. Pour y accéder, les deux frères vont corrompre un fonctionnaire manipulateur du télégraphe. Ce complice, à tour, va glisser une coquille volontaire dans un message normal, n'importe lequel, coquille qui corrige aussitôt grâce à un symbole de contrôle de l'alphabet Chappe signifiant « efface le précédent caractère ». Ouais, le bon vieux backspace. Pendant ce temps, un ex-opérateur télégraphique à la retraite observait toute la journée, à la longue vue, la tour de Bordeaux pour repérer l'anomalie, afin d'annoncer la tendance téganographiée aux deux frangins. Les messages transmis ne sont pas altérés à la sortie du réseau Chappe, quel que soit l'opérateur qui transcrivait les messages reçus. Bref, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Un simple caractère permet aux frères Blanc de gagner quelques heures sur les autres courtiers. Leur astuce fut mise en place en 1834 et passa inaperçue pendant 2 ans, jusqu'à ce que Guibou, le complice tourangeau qui ajoutait les messages, tombe malade. L'homme expliqua la combine à un collègue dans l'espoir qu'il prenne la suite.
Plantage.
Son copain était un fonctionnaire honnête. Scandale ! Procès ! Devant le tribunal, François et Joseph Blanc reconnurent, à la barre, que le procédé était immoral. Mais comme tous leurs concurrents cherchaient eux aussi à avoir l'information de plus en plus vite, impossible de démontrer qu'ils commettaient un vrai tort envers les autres investisseurs. L'agent public corrompu fut poursuivi, mais les deux frères Blancs furent relâchés et blanchis. Faute de loi qui interdisent à un particulier de recevoir des informations par le télégraphe. Un outil réparé en 1837 avec la loi sur le monopole public des télécommunications. Les frères Blancs firent carrière dans les jeux de cartes. Ils changèrent d'échelle en créant un cercle de jeu dans une des galeries du Palais Royal, lequel sera fermé en 1838 avec la première loi qui réglementa les jeux de hasard. Oh, décidément. Ils continuèrent néanmoins avec cette carte à l'étranger. Ainsi, ils proposèrent à des petits états de redresser leurs finances en prélevant une taxe sur leurs maisons de jeu. C'est ainsi qu'ils montent des casinos au Luxembourg et Hambourg avec la bénédiction des autorités locales. Louis meurt en 1852, son frère François continue les affaires en solo. Il établit le casino de Monaco sur un appel d'offres, urbanisa le quartier de Monte-Carlo et devint le premier président de la toute-puissante Société des Bains de Mer. Mais l'histoire de la principauté n'est pas la principale. Pendant ce temps, en France, le télégraphe électrique commença à être déployé en 1844. Le télégraphe Chappe ne survécut qu'une dizaine d'années à sa concurrence. D'ailleurs, j'aimerais pas décevoir les édiles de Toulouse, mais la ligne Bordeaux-Toulouse n'a tenu que 10 ans à transmettre ses infos à la vitesse du TGV. Quant à l'affaire des messages cachés dans le télégraphe Chappe, elle entrera dans la postérité quand Alexandre Dumas s'en inspira pour une des péripéties de son roman, Le Comte de Monte-Cristo.
Terra Nova remixant For a Few Dollars and More de Ennio Morricone pour une poignée de dollars. Extrait de la compilation Morricone RMX. Durant la décennie 1890, le télégraphe sans fil connaît d'importantes avancées technologiques. Mais sa mise au point demande des investissements très conséquents. La radio avait un avenir commercial auprès des entreprises et notamment les armateurs de paquebots. Coucou le Titanic! Mais encore une fois, il était bien plus intéressant financièrement et fiscalement d'en vendre l'usage aux militaires. Le chemin est quasi tracé. Le télégraphe est entré dans les mœurs des états-majors. Il devint vite important pour les armées de déployer le plus vite possible le câble du télégraphe sur les terrains d'opération. Ainsi, durant la guerre de sécession, de 1861 à 1865, l'armée unioniste a constitué un régiment du génie, le Signal Corps, qui plante les poteaux et tire le fil qui chante le long des chemins de fer. Avec une portée de transmission annoncée de plusieurs milliers de kilomètres, la télégraphie sans fil annonçait un net gain pour les télécommunications militaires, surtout pour la marine. Mais du coup, les communications pouvaient aussi être captées en territoire ennemi. Il faut donc en sécuriser la confidentialité. Guglielmo Marconi crée à la fin des années 1890 un dispositif permettant de n'émettre que sur une longueur d'onde très précise. Contrairement aux premières émissions radio à étincelles qui émettaient sur un très large spectre et avec leurs émetteurs qui claquaient plus bruyamment que le tonnerre. En businessman, le physicien italien attend que ses brevets soient validés pour les commercialiser, mais cela ne l'empêche pas de vanter son invention. Marconi proclamait notamment qu'il était impossible d'intercepter et de remplacer un message car les fréquences étaient trop difficiles à écouter. Et que donc, sa radio était un média sécurisé et confidentiel. En février 1903, il s'épanche dans la presse anglaise, se vantant comme suit. Je peux régler mes instruments de manière à ce qu'aucun autre instrument qui n'est exactement réglé de la même manière puisse écouter mes messages. La lecture publique en juin 1903 à Londres par son partenaire John Ambrose Fleming devant la Royal Society devait en faire la brillante démonstration. À 500 km de là, Guglielmo Marconi se prépare à émettre un message convenu sur un émetteur de son invention. Du haut de ses 29 ans, il sait que cette démo publique va consolider sa réputation scientifique, mais aussi le crédit de ses entreprises qui en ont justement besoin de l'argent frais. Mais alors que Fleming commence à parler à la foule, l'appareil récepteur à ses côtés se met à faire des tic-tic-tic-tic, recevant un message en morse. Des personnes dans l'assistance montrent un certain malaise quand le message est décodé. Rats, 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 rats. There was a young fellow of Italy who diddled the public quite prettily. Ra, 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 ra. Un jeune homme italien a joliment roulé le public.
Plantage.
La méthode d'envoyer publiquement des injures limite racistes était loin d'être la plus fine. Mais elle a clairement démenti l'affirmation censée être démontrée ce soir-là. Ce premier piratage radio, un hack avant l'heure, fut qualifié de hooliganisme scientifique par Fleming dans une interview au Times où il l'invita à dénoncer son auteur. Quatre jours après, le prestigieux quotidien reçut une lettre revendiquant l'action. Neville Maskelyne revendiqua le piratage. Un illusionniste de 39 ans, artiste de music hall, certes, mais aussi scientifique amateur. Il fait partie d'une longue tradition d'illusionnistes qui attaquent les affabulateurs scientifiques et imposteurs pseudo-scientifiques. Pour le plaisir, je ne peux m'empêcher de citer Harry Houdini contre le spiritisme, après qu'il y ait cru lui-même, James Randid contre la mémoire de l'eau de Jacques Benveniste qui devait prouver l'homéopathie, et Gérard Majax contre la parapsychologie d'Uri Geller qu'il cassa la télévision en direct face à Geller lui-même. Bah oui, quoi de mieux comme expert en fraude que des spécialistes de l'illusion et de la dissimulation. Un challenge nettement plus passionnant que sortir une colombe d'une manche. Maskelyne motiva son acte par les nombreux dépôts de brevets de Marconi qui s'appropriaient parfois les travaux de Henry Schertz et de Nikola Tesla. C'est exact, mais dans les faits, l'illusionniste amateur de sciences physiques a été approché par la Eastern Telegraph Company qui a tiré des câbles sous-marins transcontinentaux jusqu'aux Indes. Un investissement conséquent et un monopole sur la messagerie instantanée, le télégraphe, mis en danger par des démonstrations de transmission transatlantique de Marconi en 1901.
Eastern Telegraph Company finança Neville Maskelyne pour qu'il espionne Marconi et démontrer d'éventuelles faiblesses dans ses inventions. Maskelyne érigea un mât antenne de 50 mètres, pas loin d'une des stations émettrices de Marconi. Et comme il le dit dès 1902 dans la revue spécialisée The Electrician, le problème n'était pas d'intercepter les messages, mais de gérer l'importante puissance radioélectrique reçue. Car oui, un an avant, il avait déjà prouvé qu'on pouvait écouter les messages avec un récepteur sans sélecteur de fréquence, alors que la technologie des fréquences devait justement écarter les oreilles indiscrètes. Ce soir-là, en montant la première station radio pirate, Maskelyne avait publiquement démontré qu'on pouvait aussi émettre à la place d'un émetteur de Marconi sans pouvoir différencier la source. Ce n'est pas ce hacking qui va arrêter la radio, ni les entreprises du serial start-upper Marconi, mais le physicien italien a clairement survendu les capacités de son invention pour valoriser exagérément les brevets et obtenir un financement des militaires. Il est plus que probable qu'il clamait l'improbable en connaissance de cause, à savoir la confidentialité d'une fréquence radio dans une diffusion omnidirectionnelle. Et il semblerait que Guglielmo Marconi en soit tellement coutumier qu'un siècle plus tard, des spécialistes remettent en question sa supposée première transmission radio transatlantique en 1901. Au final, dans cette cascade, seul l'ego du physicien italien fut blessé, ainsi que celui de Fleming, lequel s'est pencha dans la presse pendant des semaines, traitant l'acte de Maskelyne comme une insulte à la science. Maskelyne répondit poliment en lui suggérant de se concentrer sur les faits. « Je rappelle au professeur Fleming que l'injure n'est pas un argument », écrit innocemment le drôle qu'ils avaient traité de rat. Les militaires en tirèrent vite les conclusions qui s'imposaient après cette contre-démonstration. La radio est une infrastructure publique où n'importe qui peut écouter ou émettre. Pour la confidentialité, il faudra donc ajouter une couche de chiffrement. Le cryptage par fréquence secrète a montré son échec, à moins d'émettre que très rarement sur une fréquence, ce que font encore certains services secrets actuellement. Les travaux de Marconi et de Fleming furent extrêmement utiles pour le développement de la radio, tout comme ceux d'Hertz, de Tesla et d'autres physiciens contemporains. Ils ont juste été survendus. Quant aux câbles sous-marins, les diplomates allemands passèrent à la radio quand les Britanniques coupèrent délibérément leurs câbles sous-marins, permettant aux renseignements britanniques de les mettre sur écoute. C'est en 1914. Eh oui, déjà.
En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor.
la météo d'Internet. Boing, ping, boom, tchak, ping.
À l'orée du XXe siècle, le chiffrement commence à quitter le domaine exclusivement militaire. Que cela soit les messageries papier, les signaux optiques, le télégraphe électrique, la téléphonie ou les ondes radio, les infrastructures sont civiles ou font intervenir trop de main-d'œuvre pour être considérées comme confidentielles. La couche de chiffrement devient donc indispensable afin d'assurer le minimum de confidentialité. Mais la tâche reste manuelle, les machines sont trop lourdes pour être pratiques. À côté des alphabets de codage de protocoles comme l'alphabet des sémaphores, ceux du télégraphe Chappe et du Morse, on note un alphabet binaire, celui de Francis Bacon. S'il est déjà oublié, son principe va être réinventé ultérieurement. La Première Grande Guerre mondiale va aussi amener une grande confrontation industrielle et technologique, amenant les ingénieurs à réfléchir à de nouveaux outils tactiques et de nouvelles armes. Elle se paiera en millions de morts. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskritch et Solarus. La release a été shippée avec les moyens techniques de Theta Lab, de Radio FMR et de CPU. L'intégralité de l'enregistrement, ses extraits et ses ressources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, ou même pourquoi pas rajouter des liens dans les commentaires. La suite de cette histoire sera diffusée prochainement. En attendant la prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous céderons le micro à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Et j'ai été soft, j'ai pas dit le manipulateur Morse. La pauvre.